France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Dans les crèches ou dans les foyers au plus près des enfants, 1700 personnels avaient déjà été condamnés ou étaient fichés comme agresseurs sexuels. Ils viennent d'être identifiés par un nouveau dispositif. Explication dans un instant. À suivre encore, le psychanalyste star Gérard Miller, bientôt mis en examen pour 5 viols, dont 4 sur de jeunes mineurs. Une journée de mobilisation en demi-teinte pour les syndicats contre les projets de budget du gouvernement. Nous serons dans la Sarthe et dans les Bouches-du-Rhône, tout cela alors que le Premier ministre présente ses pistes pour le pouvoir d'achat. Nous irons au Maroc, un pays qui s'embrase. Nouvelle nuit de manifestation des jeunes. Bonjour Cédric Ralfi.
Bonjour.
Vous êtes sur place, un mouvement endeuillé hier soir.
Et oui, 2 morts parmi les émeutiers qui ont attaqué une gendarmerie, c'était près d'Agadir.
Et nous reviendrons sur les revendications de ces jeunes avec notre invité, à tout de suite. Nous serons également à Manchester, Royaume-Uni, attaque au couteau ce matin devant une synagogue. Et puis nous parlerons d'un procès inattendu, celui d'un tableau célébrissime, le déjeuner sur l'herbe accusé d'atteinte aux bonnes mœurs. À partir de 13h30, un infirmier libéral qui sillonne la campagne et s'arrête chez ses patients, souvent âgé. C'est le point de départ du roman La Tournée de Maxime Rossi. Il est notre invité. Si ça vous parle, 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h50, c'est la France. Les coulisses de la réservation en ligne dans les restos avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le metteur en scène Serge Hureau demande Édith Piaf à Frédéric Pommier.
Quand j'étais petit, je l'aimais pas du tout. Je voyais cette dame qui avait pas beaucoup de dents, les doigts crochus. Elle me faisait l'effet d'une sorcière. J'avais peur. Et on me disait que c'était formidable. Moi, je disais, mais pourquoi elle crie si fort? Pourquoi? C'est ça qui est beau.
Il a donc changé d'avis. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
On le savait, il y a parmi les personnels de la protection de l'enfance et de la petite enfance des personnes déjà condamnées pour agression. Plusieurs cas ont été rendus publics ces derniers mois. Mais personne n'imaginait l'ampleur du phénomène et ce chiffre choque. 1700 personnes travaillant au plus près des enfants avaient déjà été soit condamnées pour différents motifs, soit été fichées pour infraction sexuelle. Bonjour Sarah Mansoura. C'est la mise en place, bonjour Sarah.
Bonjour.
C'est la mise en place d'un nouveau dispositif de contrôle qui a permis de les identifier.
Oui, un dispositif généralisé dès aujourd'hui, en test déjà dans une petite trentaine de départements. Honorabilité.social.gouv.fr, c'est le nom de cette plateforme d'État destinée à produire une attestation d'honorabilité, obligatoire désormais pour les personnes qui interviennent auprès des enfants. Elle certifie que la personne n'a pas de condamnation au casier judiciaire qui l'empêche d'intervenir auprès de mineurs ou, Jérôme, d'inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes.
Donc 1700 personnes identifiées, quel est leur profil?
Pour 80% des refus, il s'agissait de personnes travaillant dans la protection de l'enfance. 1% des professionnels actuels de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ne l'ont pas obtenu et devront donc être licenciés. Parmi les motifs de refus, il y a les infractions sexuelles, hein, comme la détention d'images pédocriminelles, mais également les atteintes aux personnes, les meurtres, violences, séquestrations, et d'autres, comme le délaissement de mineurs, l'abus de faiblesse, faux et usage de faux également, et escroquerie, c'est donc assez large. Enfin, parmi les personnes désormais contrôlées, les professionnels et les bénévoles de la protection de l'enfance, tout comme les personnels des crèches et des assistants maternels, et les personnes de plus de 13 ans qui vivent à leur domicile.
Comment réagissent les professionnels à ces chiffres?
Ils sont rassurés par la rapidité, la fiabilité et l'élargissement de cette vérification. Elsa Hervy est déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches.
Avant, personne n'embauchait un salarié qui ne présentait pas un bulletin numéro 3 vierge. Mais effectivement, il n'y avait pas forcément toutes les condamnations et toutes les interdictions de l'exercice. L'attestation d'honorabilité, elle va faire la recherche sur le bulletin numéro 2 et dans le FIGES, et c'est en ça que c'est une grande avancée.
Plus rassurant encore, dit-elle, les personnels en poste ont aujourd'hui 6 mois pour présenter cette attestation qui leur sera ensuite demandée tous les 3 ans.
Merci Sarah Mansoura. Lui était en garde à vue depuis mardi, accusé par plusieurs femmes de viol et d'agression sexuelle. Certaines étaient mineures au moment des faits. Le psychanalyste Gérard Miller, bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Il va être mis en examen.
Oui, le parquet de Paris estime avoir suffisamment d'éléments pour ouvrir une information judiciaire et demande sa mise en examen. examen pour des viols sur 5 jeunes filles ou femmes, dont 4 étaient mineures. Il retient aussi des agressions sexuelles sur 2 autres victimes. L'enquête avait été ouverte en février 2024, suite à une première plainte pour des faits commis en 1995. Puis, après les enquêtes du magazine Elle et de Mediapart, une vingtaine de femmes avaient apporté leur témoignage à la justice. Elles relatent des scènes à caractère sexuel survenues après une séance d'hypnose, une soirée alcoolisée ou sous prétexte d'un rendez-vous professionnel. Elles avaient alors entre 14 et 25 ans. Certains faits sont considérés comme prescrits, ceux retenus par le parquet s'échelonnent de l'an 2000 à 2020. Après 2 jours de garde à vue à la brigade des mineurs, Gérard Miller doit être présenté aux juges d'instruction qui vont être désignés. La question du contrôle judiciaire ou de la détention provisoire va aussi se poser, même si le parquet de Paris ne donne jamais ses réquisitions sur cet aspect-là.
Merci Sarah Guibaudot. Dans l'affaire du navire fantôme a résonné le week-end dernier au large de Saint-Nazaire, le parquet de Brest décide de juger pour refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer donc pour ce futur procès, le commandant de nationalité chinoise de ce pétrolier. En revanche, son second, qui avait également été placé en garde à vue depuis 48 heures, a été laissé libre. Si vous consultez un médecin spécialiste, vous avez plus d'une possibilité sur deux de devoir payer plus cher que le tarif de l'assurance maladie. Désormais, 56% des spécialistes sont installés en secteur 2, c'est-à-dire qu'ils pratiquent des dépassements d'honoraires. Bonjour Victor Delande.
Oui, bonjour.
Ce chiffre s'envole, 4,3 milliards d'euros de dépassements d'honoraires l'an dernier à la charge des patients.
Ah oui, les dépassements d'honoraires en constante augmentation depuis plus de 5 ans, plus 5% par an en 25 ans. Le nombre de médecins qui pratiquent ces dépassements d'honoraires est passé de 37 à 56%. Car ce qu'il faut bien comprendre, Jérôme, quand un médecin s'installe en secteur 2, il peut pratiquer librement les prix qu'il souhaite. Sauf que ces dépassements d'honoraires induisent forcément un reste à charge élevé pour les patients. Et ceux qui sont le plus souvent impactés sont les personnes à faible revenu, les retraités et les patients engagés dans des parcours de soins très lourds. C'est le cas de Coralie, elle a 29 ans et vit avec un diabète de type 1 depuis plus de 20 ans. Le diabète de type 1 est une affection de longue durée, donc ses rendez-vous chez le diabétologue sont pris en charge à 100%. Mais pas les autres consultations.
Ce sont des soins que l'on se doit de faire tout simplement pour le suivi du diabète de type 1. Donc que ce soit chez le cardiologue, soit chez l'ophtalmologue ou encore chez le neurologue. Bah, à la fin de consultation, je sors souvent la carte bleue mais sans trop savoir pourquoi. Ces dépassements d'honoraires font quand même une jolie somme à ajouter au budget de prise en charge de notre pathologie.
Plusieurs centaines d'euros par an au total. Coralie parle de double peine. En plus de la maladie, ces dépassements d'honoraires pénalisent encore plus les malades comme elle, explique-t-elle. Des associations de patients et des syndicats comme l'UNSA demandent des réformes au plus vite pour que l'assurance maladie joue à 100% son rôle de protection des patients.
Victor Delande pour ses précisions. Quel budget pour la sécurité sociale et pour l'État l'an prochain? Plus de 3 semaines après sa nomination, le Premier ministre Sébastien Lecornu transmet aujourd'hui sa première copie au Haut Conseil des Finances Publiques. Et il y en aura d'autres, tout cela alors que les syndicats sont dans la rue pour lui imposer leurs conditions. Nous serons à Marseille pour écouter des manifestants dans un instant. D'abord, regardons ce qu'il y a dans ce premier projet. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Le Premier ministre étudie et avance des propositions pour le pouvoir d'achat.
Oui, à Bercy, les calculettes ont chauffé ces derniers jours autour de plusieurs options, nous dit aujourd'hui l'entourage de Sébastien Lecornu. Celle d'abord d'une réduction de l'impôt sur le revenu pour les couples payés au SMIC pour les ramener, explique-t-on, à la situation fiscale des personnes seules. Autre levier à l'étude, un allègement des charges sociales sur les heures supplémentaires et un rétablissement de la prime Macron avec ses avantages fiscaux initiaux. Chiffrée aussi très certainement ces derniers jours, cette autre mesure réclamée par le Parti Socialiste, une baisse de la CSG, la contribution sociale généralisée, cet impôt au spectre très large pour dégager 900 euros par an pour une personne seule au SMIC, mesure probablement bien plus coûteuse que cette baisse d'impôt sur le revenu pour les couples au SMIC qu'évoque aujourd'hui Matignon. Mmh. Mais une source parlementaire à droite se demande combien de personnes cette baisse d'impôt sur le revenu cela concernera. Même réaction à gauche, le risque c'est que cela ne concerne quasiment personne. Voilà, tout cela ne nous dit pas encore ce qui est réellement inscrit noir sur blanc dans ce projet de budget envoyé aujourd'hui a priori. Mais on sait donc que Sébastien Lecornu veut afficher un geste sur le pouvoir d'achat des salariés. Vendredi dernier, il avait dit que certains impôts augmentent augmenterait et que d'autres diminueraient. On est là dans cette deuxième catégorie de mesures.
Merci Claire Chaudière. À ce stade, pas de quoi décourager tous ceux qui se mobilisent. Aujourd'hui, à l'appel des syndicats, même s'ils sont moins nombreux qu'il y a deux semaines, ainsi chez le volailler LDC à Sablé-sur-Sarthe. Pour ses salariés, ce n'est pas l'envie qui manque, c'est l'argent.
Ils ne veulent pas perdre de salaire, c'est ça. C'est ça qui les empêche. Perso, moi, l'autre fois, ça ne va pas déranger, mais je ne vais pas la faire tout le temps non plus, parce qu'à la longue, il y a les factures à payer. Ce n'est pas le gouvernement qui va les payer.
À un moment donné, nous aussi, on a besoin de vivre. Hein. Nous aussi, on a des charges à payer. On se mobilise beaucoup pour tout le monde, mais voilà, à un moment donné, c'est tout le monde dans la même galère ou bien pas. Quoi. Là, le gouvernement, c'est au bain de barre pour eux.
Ces salariés au micro de Julie-Marie Lecomte de France Info, 6,42% d'enseignants grévistes aujourd'hui, selon le ministère de l'Éducation nationale. Et des cortèges qui sont non plus clairsemés, 250 au total, 85 000 manifestants à la mi-journée, nous dit à l'instant le ministère de l'Intérieur qui en comptabilisait 200 000 le 18 septembre. Parmi les cortèges du matin, Marseille, suivi par Mathilde Vinceneuf.
Le cortège est moins fourni qu'il y a 15 jours. 4 000 manifestants contre 15 000 le 18 septembre, selon la police. Mais la colère est toujours là dans la foule. Jonathan, salarié dans la distribution de presse, il n'attend plus rien du futur gouvernement, même si ses revendications sont nombreuses.
L'augmentation des salaires, déjà, pour commencer, je pense, des moyens pour les services publics. Ouais, aujourd'hui, l'argent, il existe, il faut juste mieux le répartir. Là, le cornu, ça fait, il a participé à tous les gouvernements d'Emmanuel Macron. Qui peut imaginer une seule seconde que ce gars-là, il va mener une politique de rupture dans le pays.
La rupture promise par le Premier ministre, Jamila attend de la voir. Elle travaille dans les EHPAD et réclame toujours la fin de la retraite à 64 ans.
Et le Premier ministre va réévaluer la retraite des femmes. C'est des miettes.
Il faut continuer à mettre la pression, insistent aussi les profs présents, même si les jours de grève commencent à peser, explique Juliette, surveillante dans un collège.
Moi, j'ai fait les trois mobilisations parce que je crois en la grève et je crois que c'est en se mobilisant et qu'on va faire bouger les choses. Alors, c'est dur financièrement, j'ai une petite fille, donc oui, je vais faire des sacrifices, mais moi, je pense qu'il faut être là aujourd'hui et qu'il faut bouger.
S'il le faut, on se mobilisera à tour de rôle, conclut une de ses collègues.
Mathilde Vinceneux, correspondante de France Inter à Marseille. Une attaque à la voiture Bélier en plein Paris la nuit dernière. C'est un magasin Chanel qui a été cambriolé, rue Royale, vitrine brisée et de nombreux sacs volés. Les auteurs sont en fuite.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est un jour de fête pour les Juifs du monde entier, la fête de Yom Kippour. Et c'est une journée qui est marquée au Royaume-Uni par une attaque devant une synagogue. Cela s'est passé ce matin à Manchester. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Gaëlle, 4 personnes ont été blessées. Que s'est-il passé ?
Alors la police est intervenue ce matin alors qu'un témoin signalait qu'une voiture fonçait sur des piétons devant la synagogue et qu'un homme avait été poignardé. À ce stade, vous le disiez, 4 personnes ont été blessées. Selon des témoins, un agent de sécurité a été frappé avec un couteau. L'attaque est considérée comme terroriste par la police qui a tiré sur le suspect sans préciser si celui-ci était mort. Sur le réseau social X, Keir Starmer s'est dit consterné par cette attaque. Le fait que cela se produise le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, rend la situation encore plus horrible, écrit le Premier ministre, qui a annoncé écourter sa présence au sommet européen à Copenhague. Une réunion d'urgence est prévue à Londres cet après-midi. Et à l'instant, Keir Starmer annonce des renforts policiers devant les synagogues du pays.
Merci Gaëlle Joly, en direct de Londres pour Inter. Le mouvement des jeunes marocains était au départ pacifique. Il a dégénéré ces deux derniers jours. La nuit dernière a de nouveau été marquée par des violences dans plusieurs villes du pays et la protestation a tourné au drame dans le sud, près d'Agadir. 2 émeutiers ont été tués alors qu'ils attaquaient une gendarmerie. Cédric Ralfi, on vous retrouve, vous êtes notre correspondant sur place. Cédric, la situation a dégénéré et paradoxalement au moment même où le gouvernement venait d'autoriser les manifestations.
Oui, Jérôme, le gouvernement qui a fait arrêter par centaines des jeunes ce week-end alors qu'ils manifestaient pacifiquement, certes sans autorisation, mais aussi sans heurts. Alors depuis, vous le disiez, la situation a dégénéré pour la 3e nuit consécutive en émeute un peu partout dans le pays, dans les grandes villes comme dans les bourgades. Des agences de poste, des magasins, des voitures de police et de gendarmerie ont été incendiées. Et puis ce drame, hier près d'Agadir, dans la petite localité de L'Kliar, 2 morts parmi les émeutes. routier. Les gendarmes ont ouvert le feu alors que leur brigade était prise d'assaut. Des gendarmes qui auraient agi en état de légitime défense et pour protéger leur armurerie du pillage, précisent les autorités.
Que dit pour l'instant le gouvernement ?
Le gouvernement ne réagit que peu, hein, en tout cas pas à l'oral. Bon, il y a bien eu une visite surprise à l'hôpital d'Agadir et des limogeages en série. C'était il y a 2 semaines lorsque des manifestations ont eu lieu pour dénoncer la mort de 8 nouveau-nés et la corruption endémique dans cet hôpital public. Mais depuis, pas grand-chose, hein. Le gouvernement, alors certes, s'est réuni en urgence. Il s'est dit prêt à écouter et entendre les revendications de la jeunesse. Des revendications d'ailleurs que le gouvernement juge juste et légitime. Mais c'est pas sûr qu'avec son image de milliardaire et de grands patrons, le Premier ministre Aziz Arnouch arrive à convaincre les jeunes avec la seule promesse de les écouter.
Merci Cédric Ralfi en direct de Casablanca. En ligne avec nous, Tahani Brahma, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militante pour l'association marocaine des droits humains, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on assiste à une telle flambée de violence au Maroc ?
Alors, en effet, la génération... Gen Z a pris d'assaut les rues pour des revendications aussi simples et légitimes que le droit à l'éducation, à la santé. Ils ont été réprimés avec une violence assez inouïe. C'est-à-dire que jusqu'à hier soir, tout depuis le samedi, donc samedi, dimanche, lundi et mardi, les manifestants n'ont même pas pu se rassembler. Ils ont été arrêtés, violentés. Et certains sont encore aujourd'hui emprisonnés.
Est-ce que l'on sait qui est à l'origine de ce mouvement ?
On ne sait pas du tout. C'est sur la plateforme Discord. Ce sont des jeunes qui voilà, en s'inspirant de ce qui s'est passé au Népal, veulent prendre leur destin en main et avoir un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants.
Au cœur des préoccupations, il y a, et Cédric nous le disait, l'état du système de santé. Expliquez-nous.
Bah effectivement, aujourd'hui, après le drame à Agadir, où pendant quelques jours, plusieurs femmes enceintes ont décédé au moment de l'accouchement.
Mmh, 8.
Il y a eu des manifestations à Agadir, et puis ce sont... étendu dans tout le pays. On a une privatisation accrue de la santé avec des cliniques privées qui pullulent de partout. Et en face, on a un hôpital public qui est dans un piteux état et qui continue d'être... de souffrir du manque d'infrastructures et de présence de personnel médical.
Merci Tahani Brahma, militante pour l'association marocaine des droits humains, d'avoir été en direct avec nous dans ce 13-14. Je reviens un instant sur l'information que l'on vous donnait il y a quelques instants. Cette attaque devant une synagogue à Manchester au Royaume-Uni ce matin. Le bilan vient de s'alourdir. 2 morts dans cette attaque, nous dit à l'instant la police britannique. Ils veulent faire cesser le conflit à Gaza. Les militants de la flottille pour Gaza sont toujours en route vers le territoire de Gaza. 30 des 45 navires ont tout de même été interceptés hier soir par Israël, mais 15 navires poursuivent leur route. L'un de ces navires se situe dans les eaux territoriales de Gaza et pour la première fois, ça c'est l'une des revendications de la flottille ce matin, même si elle est contestée par Israël qui affirme qu'aucun de ces navires n'a pour l'instant réussi à franchir le blocus de Gaza. Et puis le sommet européen qui se poursuit à Copenhague, les 27 réunis pour réfléchir à leur défense et à la lutte anti-drone. Les drones qui violent l'espace aérien européen peuvent être détruits. Point final, déclaration ce matin d'Emmanuel Macron. Et encore une marque qui tombe dans la mode française. Le chausseur Minelli, qui avait été repris début 2024 après un redressement judiciaire, a été placé en procédure de sauvegarde. On l'a appris ce matin, en février dernier, et sur un an, ses pertes s'élevaient à 4,2 millions d'euros. C'est une nouvelle marque en difficulté parmi celles d'accessoires et de prêt-à-porter en France, victime notamment de la concurrence de sites asiatiques à bas prix comme Chine qui a frappé un grand coup hier en annonçant une alliance inédite avec le BHV et avec plusieurs magasins Galeries Lafayette pour y ouvrir des boutiques dans les prochains mois. Bonjour Maxime Deps.
Bonjour.
Il faut préciser que ce n'est pas le groupe Galeries Lafayette qui a conclu ce partenariat, mais bien le propriétaire du BHV. Qui est-il ?
C'est un homme jeune, ambitieux, de 34 ans, né à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, aux 14 000 abonnés sur le réseau social Instagram, où il poste de lui des photos, tantôt dans les studios Warner à Los Angeles, tantôt aux côtés de Nicolas Sarkozy, où il se vante notamment d'avoir relancé le BHV, le grand bazar de l'hôtel de ville à Paris, qui avant lui, dit-il, n'était pas rentable.
Non, le BHV perdait 15 millions d'euros par an.
Et ça marche, là ?
Sur un an, le BHV qui aurait dû perdre 15 millions, il a gagné grosso modo 10 millions.
Vidéo postée au printemps dernier, époque à laquelle nous vous révélions la levée de boucliers de plusieurs fournisseurs dénonçant des impayés, des retards de paiement importants. L'un d'eux avait accepté de nous parler, notamment de l'homme Frédéric Merlin et de l'impression qu'il lui laissait.
C'est une sorte de... C'est Super Mario, c'est un winner. C'est un winner bien habillé. C'est le wonderful boy, quoi. Il est merveilleux. Il veut faire beaucoup de choses à BHV. Oui, très bien. Je veux bien, mais bon...
Voilà, depuis ce fournisseur dit avoir été payé, non sans avoir dû batailler. D'autres courent toujours après leur argent et préparent actuellement des actions en justice visant notamment Frédéric Merlin pour des sommes allant, selon nos informations, de 50 000 euros à beaucoup plus.
Maxime Deps, une vie de recherche et de combat. Celle de la célèbre primatologue britannique Jane Goodall. Elle est morte hier à l'âge de 91 ans. Une vie à étudier les chimpanzés et à les défendre. Elle donnait encore 300 conférences par an. C'est dans le cadre de l'une de ses tournées qu'elle s'est éteinte hier à Los Angeles. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Jérôme.
Une vie à militer donc. Mais qu'en reste-t-il ? Qu'a-t-elle réussi pour la protection de ses chimpanzés ?
Oui, beaucoup d'actions très concrètes. L'institut qui porte son nom gère des sanctuaires pour les chimpanzés orphelins. Il sensibilise contre le braconnage. Jane Goodall a révolutionné notre regard sur les chimpanzés. Elle a agi à un niveau politique très large. Maud Lelièvre est la vice-présidente de l'institut Jane Goodall France.
Elle a eu vraiment une volonté, pas simplement de faire ce qu'on faisait beaucoup à l'époque, un refuge à un endroit parce qu'elle était sensible, mais de créer une dimension internationale. C'est aussi son approche sur des actions locales cruciales comme renforcer les aires protégées, comme au sud du Sénégal, créer de nouvelles aires protégées pour sécuriser l'habitat des primates, lutter contre le commerce illégal. Et elle a compris que sensibiliser, mobiliser, c'était un impératif pour sauver ce qu'elle avait étudié.
Et ce combat n'est pas terminé. Aujourd'hui, les chimpanzés restent en danger critique. Sabrina Krief est primatologue au Musée de l'Homme à Paris.
Aujourd'hui, la situation est vraiment, vraiment dramatique pour les chimpanzés qui sont les sentinelles de l'état des forêts tropicales. Le braconnage est toujours présent, la disparition des forêts tropicales au profit de l'agriculture intensive est toujours plus importante. Donc la situation est grave. Sa disparition va créer un manque immense, mais elle nous oblige et on se sent encore plus aujourd'hui une mission à porter sa voix toujours plus fort et plus loin.
Les primates sont aussi victimes des virus comme Ebola. Entre 1994 et 2014, la population mondiale de chimpanzés a perdu 80% de ses effectifs. Il en reste moins de 300 000 aujourd'hui.
Il faut donc reprendre le flambeau. Merci Célia Kiré. Voici un procès qui est fictif, qui n'a pas lieu dans un tribunal, mais dans un musée, le musée d'Orsay à Paris. C'est ce soir, les accusés Édouard Manet et Victorine Meurent. Le premier était peintre, la seconde était son modèle. Objet du procès du délit, un tableau, le déjeuner sur l'herbe, célébrissime, et accusé d'atteinte aux bonnes mœurs. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Vous avez assisté aux répétitions de ce procès hors norme et qui a surtout l'intérêt de faire le parallèle entre l'image des femmes à l'époque, au XIXe siècle, et aujourd'hui.
Oui, car c'est la présence d'une femme nue sur le tableau, regardant le spectateur droit dans les yeux, qui avait fait scandale à l'époque.
Vous décidez de me juger à nouveau, mais ce n'est pas moi que vous jugez, non. Vous jugez la femme nue.
Sur scène, témoins fictifs et vrais avocats se succèdent comme maître Louise Berriot, qui représente aussi la Fondation des femmes, co-organisatrice de l'événement.
Que ce soit en 1863, à l'époque du déjeuner sur l'herbe, aujourd'hui, on est toujours exactement dans les mêmes enjeux. Alors, à cette nuance près qu'aujourd'hui sont réprimés les corps de femmes à la fois trop habillés dans l'espace public, à la fois trop déshabillés dans l'espace public, c'est un procès, à mon sens, qui est tout à fait d'actualité.
Mais on est dans un musée, alors cette mise en perspective du 19e siècle à l'allure d'aujourd'hui se fait avec la rigueur factuelle annuel des historiens de l'art. Antonine Fula est directrice de la programmation culturelle au musée d'Orsay.
On va faire des allers-retours entre l'époque et le contemporain. C'est vraiment l'objet, c'est d'être le plus précis sur les faits. Mais après, il y a une liberté s'approprier ces grandes figures historiques et pouvoir faire des allers-retours passé-présent.
À l'époque, le procès de Manet n'a pas eu lieu, mais il aurait pu. C'est une sorte de mise en garde pour maître Frédéric Cassereau, qui fait partie des intervenantes.
Aujourd'hui, vous avez des responsables politiques qui revisitent l'histoire, qui revisitent l'histoire de l'art, qui revisitent la science. Hier, Manet faisait scandale. Aujourd'hui, en France, il serait sans doute relaxé, mais demain, on peut peut-être s'en inquiéter.
Quant au verdict de ce procès, il n'est pas encore écrit. L'affaire sera tranchée ce soir et en public.
Merci Julien Baldacchino. Il était, il y a un peu plus d'un an, le meilleur séiste, c'est-à-dire spécialiste de canoë au monde, champion olympique. Il est depuis ce matin champion du monde. Nicolas Gestin, qui a remporté l'or par équipe lundi, a donc remporté ce matin le titre individuel en dominant le canoë mondial. C'est le troisième titre pour les séistes bleus lors de ces championnats du monde qui ont lieu tout près de Sydney en Australie. On va se retrouver dans une minute, juste après un peu de musique, car en raison d'un appel à la grève déposé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France contre la politique d'austérité et les restrictions budgétaires qui pèsent sur l'avenir du service public de la radio, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. À tout de suite.
À des balbutiements, à des balbutiements, ardent et volatile. Tue-moi, je te couvrirai. Tue-moi, je te couvrirai de baisers.
h 27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, Maxime Rossi est notre invité pour son roman La Tournée. C'est son premier 24 heures dans la vie d'un infirmier libéral à la campagne. 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton. Il y en a des centaines en France, des camions à pizza. Le nôtre est dans les Vosges. Importance considérable en milieu rural. Nous verrons cela. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marie-Luce, les sites de réservation au resto.
Oui, deux sociétés, Jérôme, se partagent la quasi-totalité de ce marché après avoir peu à peu avalé leurs concurrents. Qui sortira vainqueur? On ne le sait, mais sûrement pas le restaurateur, pris au piège d'une situation proche du monopole.
Et avec vous, Frédéric, un metteur en scène.
Serge Hureau, qui crée à partir de ce soir la revue Arc-en-Ciel. C'est au hall de la chanson à Paris. Et avec lui, c'est une chanson méconnue d'Edith Piaf que nous écouterons. Piaf qui pourtant lui faisait très peur quand il était enfant.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Savez-vous qu'il est possible de faire un leg au Secours Populaire Français ?
Oui, et c'est pour moi la plus belle manière d'agir pour un monde plus juste et plus solidaire. Grâce à mon leg au Secours Populaire, je suis sereine, je sais que le peu que je possède servira à une cause et des valeurs qui me sont très chères.
Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur. On peut aussi le transmettre.
En France, les fruits et les légumes frais bio, on les mange à toutes les sauces. À l'apéro, en salade, en flan, en brochette ou encore en smoothie quand on a fini toutes les brochettes. Bref, en France, on aime tout ce qu'il y a de plus bio. C'est bio les fruits et légumes frais.
France Inter, partenaire du nouveau film de Jafar Panahi. Un simple accident. En Iran, de nos jours, un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe, marquant le début d'un engrenage vertigineux. Un simple accident. Palme d'or au Festival de Cannes, actuellement au cinéma, un film France Inter.
le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une belle journée.
Oui, le soleil est encore bien présent aujourd'hui. Il domine largement sur le sud-ouest, le massif central, les régions de l'Est, en Méditerranée aussi, avec un bémol tout de même entre la Provence, le sud des Alpes et la Corse. Là, le ciel est plus nuageux avec une petite averse possible. Il y a un vent de nord-est aussi sur la Corse, jusqu'à 60 km à l'heure. Sur le nord-ouest, jusqu'au nord de la Seine, là, des nuages élevés viennent parfois contrarier le soleil. Ils sont plus denses cet après-midi de la Bretagne vers le nord des Pays de la Loire, la Normandie, le Pas-de-Calais. Ce sont les prémices de la dégradation qui arrivera demain. Les températures ressemblent beaucoup à celles d'hier, 16 à 19 degrés dans l'Est, 19 à 22 sur le Nord-Ouest et 21 à 25 de l'Aquitaine à la Méditerranée. Et demain, donc, retour d'un temps plus perturbé avec quelques pluies sur le Nord-Ouest, le Centre-Val de Loire, la région parisienne, le Nord de la Seine, puis jusqu'au Nord-Est pour la soirée.
Élodie Calac, Météo France.
France Inter. De 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Maxime Rossi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14 pour parler de ce roman. La tournée, c'est aux éditions L'Iconoclaste. La tournée, c'est une journée dans la vie d'un infirmier qui se rend à domicile, surtout chez des personnes âgées. Et c'est un livre formidable qui nous parle de la solitude de nos anciens, qui nous parle de ce que c'est que le soin, qui nous parle de la mort, qui nous parle aussi de toute une partie de notre pays. Ça se passe en Ardèche, ça pourrait se passer dans bien d'autres départements de France. Vous nous parlez d'un monde qui, au fond, est en train de s'éteindre sous nos yeux, en silence, et vous lui rendez hommage. C'est ce que j'ai trouvé de plus touchant dans votre livre. 01 45 24 7000 pour être avec nous, parce que je suis sûr que l'histoire de cet infirmier libéral qui va à domicile et qui est si important dans la vie des gens, ça vous parle évidemment. Vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi faire parvenir vos messages via l'application Radio France. Maxime Rossi, votre héros est infirmier libéral. Vous êtes infirmier à l'hôpital. Votre héros vit en Ardèche. Vous vivez en Ardèche. Votre héros a été libraire. Et vous l'avez été. Il y a beaucoup de vous, évidemment, dans ce livre.
Oui, il y a beaucoup de moi. Et en même temps, tout est transformé. C'est-à-dire que j'ai puisé dans le matériau de l'expérience, mais il y a beaucoup de bricolage. Je prends les personnages, j'assemble, je découpe, je superpose. C'est un roman où tout est vrai, mais où tout est transformé.
Vous avez découvert une richesse dans votre nouveau métier d'infirmier et vous vous êtes dit, il faut que ça se sache, il faut que je le raconte.
Oui, et puis plus largement, si vous voulez, c'est un livre sur la France. C'est un livre sur une France dont on parle peu. C'est un livre sur la France des oubliés, celle des personnes âgées, celle des gens malades. Et moi, c'est une France qui me touche parce que je la connais, parce que je l'aime. Et c'est aussi, comme vous l'avez très bien dit, un livre sur le soin, un livre sur le lien, et j'espère un livre qui unit.
Alors, cet infirmier qui va de maison en maison circule dans une vieille Mercedes. Il écoute beaucoup de musique, c'est très réjouissant et c'est très éclectique. Il y a par exemple Bob Marley. Jamine, c'est pour démarrer la tournée. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire ces paysages d'Ardèche, qu'on voyage un peu grâce à vous, Maxime Rossi?
Eh bien, ces paysages d'Ardèche, il faut imaginer une densité très faible. Il faut imaginer une nature très sauvage qui a longtemps été entièrement paysagée par l'homme et qui a repris ses droits avec la déprise agricole. Donc il faut imaginer un paysage de failles un peu abandonnées, ça et là, des bories à demi effondrées, des chênes verts un peu fantomatiques. Voilà.
On entre dans les maisons, on entre dans les appartements, Madame Boiron, Monsieur Chabert, Madame Chambon. Qu'est-ce qui vous touche chez eux?
Ce qui me touche dans ces personnages qui, encore une fois, sont inventés, mais qui sont une sorte de concrétion de personnages existants, ce qui me touche, c'est leur solitude. Et ce qui me touche aussi, c'est que pour beaucoup de ces gens, l'infirmier libéral, c'est le seul visiteur de la journée. Et au début, si vous voulez, un infirmier, c'est un étranger qui rentre dans la maison. Et puis, peu à peu, il y a une familiarité qui se crée, il y a du lien. Et ensuite, ces gens ne font pas tout à fait partie de la famille, mais il y a un lien d'attachement spécifique. si bien qu'on soigne les corps, mais on soigne aussi la solitude, et puis on se rend des services. Par exemple, l'infirmier, il est fréquemment convoqué pour sortir les poubelles, réparer ce qui dysfonctionne. Parfois, je pense même qu'il doit soigner le chien ou aller prendre les poireaux dans le jardin, des choses comme ça.
Ça va bien au-delà du soin, ou en tout cas, c'est un soin beaucoup plus large que celui qu'on envisage généralement pour un infirmier.
Oui, souvent on réduit le soin aux soins techniques. Moi, ce que j'ai voulu pointer, c'est la dimension humaine du soin, sa dimension émotionnelle.
Et donc, ce monde que vous décrivez, c'est page 148, je vous lis. « Les personnes âgées dont je prends soin sont issues d'un autre monde, nées dans les années 30. La plupart ont grandi dans un univers imprégné du siècle précédent où l'on ferrait encore les bœufs sur la place du village, sur laquelle s'ouvrait l'échoppe du forgeron, avec son soufflet gigantesque sorti du Moyen-Âge. Elles ont connu les guerres et souffert de la faim pendant les rigueurs de l'hiver. Elles savaient réparer les outils et baptiser d'un nom précis toutes choses qui leur étaient utiles. Elles avaient l'art de former des couples fonctionnels et stables et des familles soudées. Et elles avaient pour balise morale des valeurs pragmatiques. » Et ce monde-là s'en va, petit à petit, Maxime Rossi ?
Ce monde-là disparaît, je le raconte dans le roman, je pense sans nostalgie réactionnaire, sans misérabilisme. Mais
il n'y avait pas que des choses roses à cette époque aussi, bien sûr, et vous le précisez ?
Non, il n'y avait pas que des choses roses, mais il y a cette dimension. Moi, je dois beaucoup de mon éducation à mes grands-parents. Mon grand-père était médecin, ma grand-mère était infirmière. Et c'est des gens qui ont toujours mis en avant la notion d'être utile. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, d'abord en étant libraire, puis en étant infirmier. Et maintenant, j'espère que je le serai avec ce roman.
On a beaucoup d'appels, dont celui de Laurence. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Vous êtes en Indre-et-Loire, vous êtes masseuse kinésithérapeute, c'est ça ? Vous allez à domicile ?
Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai arrêté depuis quelques temps pour des raisons. J'ai exercé cette activité à domicile pendant quelques temps et c'est un souvenir ému de cette pratique avec beaucoup de partage, beaucoup d'émotions, beaucoup de liens avec des petits challenges à obtenir, voilà, sortir de la maison, descendre le trottoir, marcher. Pour retourner voir les aînés, le club des aînés, c'était des petits challenges, des petits partages, beaucoup d'émotions dans ces relations. Voilà, notamment j'allais dans un petit village où je m'arrêtais de porte en porte parce que j'étais la kiné du village. Et c'était une expérience mémorable.
Merci Laurence, merci beaucoup pour ce témoignage. Maxime Rossi, il faut aussi décompresser dans la vie de votre héros, cet infirmier, parce qu'il y a beaucoup de charges hein, sur ses épaules. On lui livre énormément de choses.
Oui, oui, sa mission, comme vient de l'indiquer l'auditrice, c'est le maintien à domicile. Et il est aussi le confident. Donc, comme tout infirmier, il peut être témoin de choses assez lourdes. Et puis, vous savez, la dimension émotionnelle du métier d'infirmier, elle est très dense, elle est très belle. Par exemple, on tient la main, on est au plus près des personnes qui souffrent, des personnes qui sont malades, parfois même à l'hôpital, pendant des mois au gré des hospitalisations, on accompagne des personnes qui sont atteintes de cancer ou autre chose comme ça. Et c'est très beau. Et je dirais que c'est pas, on n'a pas tant besoin de se régénérer que ça, parce que cette humanité, moi, elle me porte et elle me régénère.
Elle vous régénère, il y a des moments de sourire aussi. Il y a un personnage récurrent, c'est Cyril Ferraud, l'animateur de France Télévisions, que vous voyez régulièrement, enfin que le héros voit régulièrement dans les télévisions allumées, dans les maisons.
Et oui, parce que ce soit à l'hôpital ou les infirmiers libéraux, évidemment, on rentre beaucoup dans les domiciles des personnes âgées. Donc les personnes âgées regardent beaucoup la télévision et on voit beaucoup avec Cyril Ferraud. Moi, j'ai vécu avec Déchiffrer des lettres, avec Cyril Ferraud.
Ah, l'arrêt Déchiffrer des lettres, évidemment.
Une catastrophe.
très grande polémique. Avec des patients, des malades qui peut-être voient peu de monde, mais sont quand même informés. Il y a cette femme qui vous parle du sort de... qui parle au héros du sort de Boualem Sansal. Et Boualem Sansal arrive à un moment dans la conversation entre l'infirmier et cette femme qui est, je crois, d'origine algérienne.
Et oui, oui, c'est une patiente qui parle au narrateur de cet écrivain qui est actuellement incarcéré en Algérie. En fait, je voulais vraiment rendre hommage à Boualem Sansal parce que je suis très solidaire de lui et très interpellé par ce qu'il traverse.
Et donc, cette conversation, on ne s'attend pas forcément à ce que cette affaire arrive à ce moment-là dans les échanges, des échanges de toute nature. Jusqu'à quand? C'est un peu la question que vous nous posez. Bonjour Edith.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'Auvergne, où exactement?
De Cournon d'Auvergne.
Cournon d'Auvergne, tout près de Clermont-Ferrand. Vous y êtes infirmière libérale, nous vous écoutons.
Oui. Je suis infirmière libérale depuis 2010 et je suis très inquiète pour notre profession puisque depuis 2010 nous n'avons pas été réellement augmentés. Oui, 25 centimes sur les trajets. Voilà. Moi, si j'ai choisi de travailler en libéral, c'est pour pouvoir travailler selon mes valeurs. Et ça, actuellement, c'est en danger, étant donné que non seulement nous n'avons pas été augmentés, mais certaines rémunérations, notamment les perfusions, viennent d'être diminuées, que de plus en plus des soins nous sont, des rôles, comme le rôle d'infirmière référente nous a été refusé, que les vaccins maintenant sont donnés aux pharmaciens, et que je viens d'apprendre qu'il est question de leur donner les pansements. Donc, je vois notre profession vraiment extrêmement en danger. Nous avons des syndicats qui essaient de nous défendre, mais qui n'ont pas l'air de peser très lourd dans la balance. Et voilà, je voulais vous confier notre inquiétude parce que, comme vous voulez l'entendre, notre rôle est vraiment très important.
Merci de l'avoir fait, Edith. Merci pour votre appel. Maxime Rossi, peut-être une réaction?
Oui, je suis très touché par ce que vous venez de dire et je pense que les infirmiers libéraux, ils ont un rôle essentiel auprès des personnes qui vivent seules. D'ailleurs, pour être également pompiers volontaires sur mon territoire, j'observe que c'est souvent eux qui nous alertent quand les gens ne vont pas bien. Et le challenge de l'infirmier libéral, c'est d'aider les personnes qui soignent à se maintenir à domicile. Dans le contexte de désertification médicale, il a un rôle essentiel.
Vous évoquez aussi dans ce livre, Maxime Rossi, la fin de vie. Et vous prenez à plusieurs reprises vos distances avec tous ceux qui défendent l'euthanasie ou le droit à mourir. Je vais vous citer ces pages 119. Ce n'est pas la liberté qu'ont les patients incurables de mettre fin à leur souffrance que j'interroge, écrivez-vous en tout cas le narrateur, même à considérer la vie comme bien premier et valeur dont toutes les autres découlent. C'est la capacité de la machine à accueillir ce geste ultime dans des conditions dignes, exempte de brutalité. Fin de citation. D'où viennent vos doutes aujourd'hui et vos réserves?
Tout est parti de... Je me suis demandé qu'est-ce que je ferais si un médecin me prescrivait une injection létale chez une patiente. Est-ce que je pourrais pousser la seringue ou pas? J'ai pas la réponse à cette question.
Ce qui à ce stade n'est pas prévu, envisagé par la proposition de loi, par le projet de loi.
Non, ce qui n'est pas envisagé. Mais c'est une question que je me suis posée dans l'absolu. C'est le départ du questionnement, si vous voulez. Je respecte la liberté de mourir. Je pense que c'est l'ultime liberté. Mais d'un autre côté, il y a aussi la liberté d'aider l'autre à mourir. Et c'est une question très délicate. À dessein, c'est une question que je laisse ouverte dans le roman. Moi, j'ai pas d'avis. Je pense que c'est un dilemme. Ça va être un dilemme pour beaucoup de soignants. La réponse est. J'ai pas de réponse à
Mais
cette question.
Vous parlez quand même de machine. La machine, c'est quoi? C'est l'hôpital aujourd'hui?
La machine, c'est l'institution, parce que toute institution a quelque chose de maltraitant par son caractère vertical, sa structure pyramidale, qui s'oppose un peu à la solidarité horizontale. Et on peut voir dans beaucoup de témoignages aujourd'hui dans les journaux que beaucoup de soignants sont en souffrance.
Vous êtes donc devenu infirmier après des années à vendre des livres, à tenir une librairie. Pourquoi ce changement de vie, Maxime Rossi?
Eh bien, comme je vous l'expliquais, j'ai été éduqué grandement par mes grands-parents.
Oui, très présent dans le livre d'ailleurs.
Et donc, il y avait cette notion, cette notion d'être utile. Et c'est assez spontanément, finalement, que je suis revenu à ce qui était peut-être ma première vocation, d'être infirmier. Et ça m'est arrivé souvent dans le soin de faire se rejoindre les deux métiers, et notamment en faisant la lecture à des personnes, à des patients, à des personnes malades.
Il y a un autre titre dans la playlist de votre roman, La Tournée, sont les Ronettes. On va terminer là-dessus, si vous en êtes d'accord, Maxime Rossi. Il y a bien d'autres titres, il y a bien d'autres histoires dans ce roman, premier roman que je vous recommande très fortement. C'est aux éditions de l'Iconoclaste, Maxime Rossi, La Tournée. Merci d'être passé par le 13-14 aujourd'hui, 13h45 sur Inter. Notre feuilleton, toujours sur la route, avec l'une des très nombreuses pizzas ambulantes qui stationnent dans nos villes. La nôtre, c'est celle de Thibaut Metz, dans les Vosges. Aujourd'hui, nous sommes à Bonvillers. 275 habitants, sud-ouest du département. Une commune au milieu des terres agricoles, mais qui n'a plus aucun commerce. Alors, pour redonner vie à son bourg, le maire François Thierry a été le premier à accepter Thibaut.
Deux fois par semaine. Le mardi après-midi et le vendredi matin.
Donc oui, il n'y a plus du tout de commerce ici.
Moi, je suis arrivé à Bourvillais il y a 45 ans, donc en jeune ménage, où ma femme était infirmière à domicile, moi aussi. On a eu des enfants, on a construit, il y a eu un lotissement.
Un peu de lumière.
On vieillit, les enfants ne sont plus là, et donc c'est beaucoup des retraités. La boulangerie du village, la boulangerie Jean Lambert, qui était ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tout le monde venait au pain chez Jojo Lambert, c'était l'habitude. On était contents, on était dépannés. Il n'y avait plus que ça. Donc Thibaut Vetz vient de voir en parlant de pizza. Jusqu'aujourd'hui, avec l'ancien maire, on avait toujours été contre le système-là, la pizza ambulante. Pourquoi contre ? Parce qu'il y avait une pizzeria à Darnay. Elle devait fonctionner, si nous on lui fait concurrence, c'était pas sérieux. Mais dans l'intervalle, Darnay a laissé mettre en place une, comment que s'appelle, les boîtes à pizza, là,
un distributeur
à pizza. Moi, à partir du moment où ils ont dit ça, j'ai dit à Thibaut, ok. Et puis il est venu après régulièrement, donc comme j'ai été le premier à lui dire oui, il a été reconnaissant en me disant, tu sais pas François, parce que maintenant on se tutoie, moi je viendrai les samedis soirs.
Ça a bien garé la voiture. Cette remorque-là, elle est super bien parce qu'elle est équipée d'anti-retournement par rapport à d'autres remorques. Donc ça veut dire qu'on a un simple essieu sur une 3 mètres qui est parfait. Avec des béquilles sur chaque à l'arrière où je peux me positionner dans les villages. Par exemple, si c'est penché, pas droit, j'ai largement de quoi faire. Donc je la mets toujours sur béquille pour pas qu'elle roule.
Le seul petit inconvénient, c'est que Thibaut, il a beaucoup progressé, il a beaucoup évolué, il a quelque chose qui marche très très bien. Et puis des fois, les samedis, on l'invite à venir à aussi bien un mariage qu'à une fête, ainsi de suite. Donc des fois, il est pas là, il est là tout l'hiver. Là, il était là samedi dernier. Thibaut, il fait une petite publicité avant, donc il met deux panneaux dans le village. Et puis les gens du village, anciens, jeunes, moins jeunes, ils vont acheter leur pizza. Elles sont très bonnes en plus, hein. Il est gentil, il est commerçant. Chaque fois il repart, il est vide, donc c'est bon signe. Dans tous les villages, il y a des marchands de pizza, maintenant on voit même des marchands de burgers, ça se développe. Les gens se retrouvent là et, ah tiens, toi aussi, donc on boit un coup, on discute de choses et d'autres, parce que l'été dans nos villages, on voit encore les gens, parce qu'ils sortent, les journées sont grandes, il fait beau, on se promène, on marche, on va voir le voisin, ainsi de suite. Mais une fois qu'arrive le mois d'octobre, quand le temps est gris et tout l'hiver, quand il pleut, on fait la trogne. M'excuse, mais ça va de pair.
Est-ce que vous vous dites un jour, Bonvillers va retrouver un commerce, ou est-ce que ça, vous pensez que c'est une page qui est tournée ?
Pour moi, c'est une page qui est tournée. Moi, je pense qu'il faut être solidaire de la ville qui est à côté. Essayons déjà de maintenir ce qui existe à Darnay. Il y a deux boulangeries, il y a une boucherie, il y a un intermarché qui a des rayons qui sont quand même corrects aussi. Il y a pharmacie, il y a le pain, il y a le marchand de chaussures, il y a le garage, il y a un proxy qui travaille bien aussi. Maintenir ce qui existe, c'est déjà un gros défi pour nous. Créer, oui, on dit oui à toute création, mais ne rêvons pas.
Une semaine dans leur vie. Quatrième épisode aujourd'hui à réécouter sur l'application Radio France. On reste à table.
France Inter. Le 13-14.
Car dans C'est la France, le jeudi à 13h50, nous sommes avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, c'est la guerre entre les sites de réservation en ligne pour les restaurants.
Oui, depuis cet été, à force de rachat, deux opérateurs dominent le marché. Il s'agit de ZenChef et The Four qui ont englouti méthodiquement leurs principaux concurrents. Des petits tentent encore de toucher au gâteau, mais la part est minuscule. Franck Pinet-Rabarros, le poil à gratter des bonheurs et des malheurs de la gastronomie, écrivait récemment sur son site Bouillante comme le duel Alcaraz-Sinner, la confrontation entre ZenChef et The Four était annoncée de longue date. Elle arrive enfin.
Quelles en sont les conséquences ?
Mais la perspective de voir grimper les prix, comme dans toute situation monopolistique ou s'en rapprochant. Pour Franck Pinet-Rabarros, où l'un va tenter de s'emparer de l'autre, où les deux pourraient s'entendre sur le dos des restaurateurs et, in fine, celui des clients. Selon Olivier Gergaud, professeur d'économie à Kedge, spécialisé dans la restauration, ces opérations ne sont pas anodines, car elles pèseront un peu plus sur les charges des restaurants. La gastronomie, nous dit-il notamment chez les étoilés, est un secteur plus fragile qu'on ne l'imagine. Les marges sont de l'ordre de 4%, ce n'est pas mirifique. Rajoutons, Jérôme, que nous ne sommes pas avec ZenChef et The Fork dans une économie à l'ancienne. Ces deux sociétés françaises sont bien développées, même en dehors de nos frontières. La Fourchette, née en 2007, elle compte 15 000 clients, est devenue The Fork quand elle a été rachetée en 2014 par le géant américain TripAdvisor. ZenChef, qui revendique 21 000 restaurants, a été créé en 2011 et appartient désormais à un fonds d'investisseurs également américain.
Est-ce que l'on sait combien cela coûte pour le restaurateur ?
Sans dévoiler son nom, un chef étoilé a bien voulu me partager ce qu'il payait. Il a déboursé 2900 euros pour la mise en route du site et depuis c'est 1548 euros par an. Cela intègre le module de réservation, bien sûr, mais aussi des services comme la gestion du fichier client, de la liste d'attente, les avis, la reconfirmation. Mais certains chefs choisissent de ne pas dépendre uniquement de ces plateformes. C'est le cas de Stéphane Gégaud chez L'Ami Jean à Paris, connu pour son riz au lait mais aussi son franc-parler. Je me réserve tous les jours une trentaine de couverts que je garde en dehors de ZenChef parce que c'est bon aussi de recevoir des coups de fil de clients. On n'est pas obligé de vivre qu'à travers des machines, mais comme il a raison.
Ces logiciels, Marie-Luce, il faut dire qu'ils permettent aussi aux restaurateurs de lutter contre les clients qui posent des lapins qui ne viennent pas.
Oui, c'est ce qu'on le nomme le no-show. On estime que cela peut amputer de 15% le chiffre d'affaires d'un restaurant, un fléau qui, selon Stéphane Gégaud, ne cesse de proliférer.
Eh bien, demandons-lui justement de cuisiner pour un client fantôme.
Il a choisi un bouillon très concentré qui partirait en volute de fumée, comme ce client inexistant. Dans une marmite, couvrez d'eau 1,5 kg d'os de bœuf, débitez et ajoutez 3 carottes, 3 branches de céleri, 3 poireaux, un oignon avec ses clous de girofle, du thym, du laurier et du persil, 3 cuillères à soupe de vinaigre. Portez à ébullition et laissez barboter le tout pendant 4 heures à feu très doux. Oui, c'est long, mais c'est bon.
Faut ce qu'il faut.
Au final, Stéphane Gégaud promet au goujat des tranches de pain rassis, mais comme il a bon fond, il les nappera d'une excellente huile d'olive avant de les tremper dans le bouillon.
On retrouve tout ça, évidemment, et dans le détail sur l'application et le site de Radio France. Merci Marie-Luce Ribaud, chaque jeudi en direct de Bordeaux. De C'est la France à C'est une chanson. C'est le metteur en scène Serge Hureau que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Serge Hureau qui dirige le hall de la chanson où sera donné à partir de ce soir un spectacle musical hommage à Joséphine Baker, 100 ans jour pour jour, après sa première apparition parisienne dans la Revue Nègre. Mais ce n'est pas Joséphine Baker qu'il a souhaité que l'on écoute, non. Une autre légende, Édith Piaf.
Quand j'étais petit, je ne l'aimais pas du tout parce qu'on me disait que c'était obligatoire qu'on aime. Je voyais cette dame qui avait pas beaucoup de dents, les doigts crochus, elle me faisait l'effet d'une sorcière, j'avais peur. Et on me disait que c'était formidable. Moi, je disais, mais pourquoi elle crie si fort ? Pourquoi ? C'est ça qui est beau ? Moi, ça me fait peur, je le disais. Et des années après, je me suis mis à l'écouter parce que j'aime bien aller là où on a eu une résistance, là où on trouve que quelque chose n'est pas beau. Et donc, je suis allé chercher donc les fameux face B. Il suffisait de retourner le disque et puis d'écouter ce qui n'avait pas de succès. Parce que je pense que c'est souvent dans les face B que se niche le talent de quelqu'un, son truc, son secret. Et là, je trouvais que c'était incroyable.
Qu'est-ce qui, finalement, est venu vous accrocher ? Vous qui n'étiez pas du tout touché par elle quand vous étiez enfant.
Bah, c'est les chansons elles-mêmes, pas simplement la personne. Vous savez, quelquefois, on s'intéresse surtout à la personne qui a chanté, mais il y a des gens qui ont écrit les chansons. Et c'est pas toujours la personne qui chante. Vous savez, l'artiste, souvent, pour les gens, c'est celui qu'on voit, la vedette. Vedette, ça veut dire celui que l'on voit. Mais derrière ce que l'on voit, il y a plein de choses.
C'était un gars que la déveine avait un jour pris par le bras pour l'emmener dormir à Prennes. Et c'est des trucs qu'on n'oublie pas. Il avait des yeux de mauvais ange, tombé d'un vilain paradis avec un drôle de regard étrange.
C'est là qu'on voit les connaisseurs, puisque cette chanson choisie par Serge Hureau n'est pas la plus connue de Piaf. Son titre, c'est « Il riait ».
La musique est de Georges Batol, les paroles sont d'Henri Comté.
Elle date de 45, cette chanson. Hein, 45, c'est 80 ans de la guerre. Il y a des guerres en ce moment dans le monde. Et ça m'a touché parce que ça parle d'un gars qui mourra à la guerre, le casque en arrière, sur ses cheveux de jais. Pour tromper sa misère, il riait. Et c'est l'histoire d'un garçon qui a un trompe-misère. Dès le début, on nous dit qu'il couchait avec la détresse et pas une fille à fréquenter. Et c'est pour ça que ses maîtresses, l'une après l'autre, l'avaient quitté. Je trouvais ça très comique. Qu'on parle de choses sombres avec du rire, je trouvais ça magnifique. Et elle s'appelle « Il riait ». C'est ça le pire dans les guerres, c'est que les gens, ils continuent à être des vivants, à rire.
Mais cette chanson, vous, vous la trouvez drôle ?
Eh ben elle est trop drôle, elle est trop. Il trimballait ses idées noires afin de noyer tous ses soucis dans les endroits où on va boire et ses soucis nageaient mieux que lui. Mais c'est très comique. Et rire de ça, c'est-à-dire à quoi sert le comique, c'est à se sortir des choses les pires.
Alors il s'est mis à maigrir des mots qu'il n'avait jamais dit.
Il y a de l'exigence dans cette chanson. Moi, je la conseille à tout le monde. Elle est trop belle, surtout en ce moment, avec ces horribles guerres, ce monde atroce, franchement. Ce monde atroce qui fait mourir des mômes qui riaient, qui ont les yeux qui brillent et qui ont envie de vivre, d'être du côté de l'amour et pas du côté de la guerre. C'est... waouh ! Je trouve que c'est très fort. Moi, ça me touche droit au cœur. Mais c'est aussi l'écriture. Voilà. Comme j'irais dans un musée, je trouverais une sculpture très belle. Ben, ça, je trouve que c'est une œuvre très belle.
Et très bien sculpté.
Mais c'est ça. Non, elle est incroyable, elle est profonde. Comme une mine, on peut trouver plein de trucs.
Mort avant même d'avoir vécu. Et le casque en arrière sur ses cheveux de jais, le front dans la poussière, il riait.
Il riait, Édith Piaf. C'était donc, Frédéric, le choix de Serge Hureau.
Serge Hureau qui met en scène la revue Arc-en-Ciel. C'est à voir jusqu'au 9 novembre au Hall de la Chanson à Paris.
Merci Frédéric et à demain.